Chers amis, bonjour, merci de nous écouter sur le 90.7 Radio Caraïbes Nancy. Et puis, bien sûr, vous savez que si vous écoutez, si vous voulez nous écouter en dehors de cette chère et belle Lorraine, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.rcn-radio.org. Et puis, cette émission, eh bien, elle sera, comme on dit, de nos jours en podcast d'ici quelques jours. Oh, allez, demain ou après-demain, nos techniciens feront ça pour vous. Aujourd'hui, nous allons quitter le studio, nous allons quitter notre univers habituel et je vous emmène dans... Ça a été le cas quelquefois. Je vous emmène dans un endroit à la fois sympathique et curieux de ce joli quartier de Nancy que j'adore. Les trois maisons, c'est sympa, c'est populaire, c'est comme nous aimons ici sur Radio Caraïbes Nancy. Dans ce restaurant improbable qui s'appelle Laissez-nous cuire, où David, le chef, est toujours à nous concocter ses petites dernières trouvailles. Il y aura bien sûr les nourritures intellectuelles et les nourritures de la bonne chair. Alors aujourd'hui donc, à Laissez-nous cuire, nous retrouverons, cette émission a été enregistrée il y a quelques semaines, nous retrouverons un ami à nous, Raymond Hiss, quelqu'un que nous apprécions beaucoup, qui se donne d'ailleurs pour ses amis écrivains, puisqu'il est trésorier de l'ADIL, l'association de défense des illustrateurs et des écrivains lorrains, qui a été créé, il faut le rappeler, par Marcel Cordier, et qui est aujourd'hui présidé par le bon président Charles Ancé. Donc, nous recevions il y a quelques jours, quelques semaines, à Laissez-nous cuire, dans le cadre de nos soirées littéraires, nous recevions donc Raymond Hiss. Raymond Hiss qui est surtout un écrivain de science-fiction, bien qu'il ait écrit d'autres romans, bien sûr, mais qui a surtout écrit les romans de la science-fiction, et qui est aussi un chercheur invétéré. Alors, eh bien, nous entendrons le président qui nous accueille, le président Charles Ancé qui nous accueille. Nous entendrons aussi Raymond Hiss nous parler de sa littérature, comment il conçoit cette littérature. Et, eh bien, il y aura quelques questions ensuite qui vont être posées à Raymond Hiss. Allez, on y va. Attention, l'escalier est raide, hein. Descendez tranquillement.
Et voilà, nous nous retrouvons à nouveau dans les caves de chez Laissez-nous cuire pour l'accueil mensuel de l'écrivain du mois. Ce mois-ci, nous avons la joie de recevoir Raymond. Raymond qui est bien connu puisque il est le trésorier de notre association, l'ADIL, l'association de défense et d'illustration de la littérature en Lorraine. Et Raymond est un écrivain de fantastique, on va dire ça. Et je vais laisser le soin à mon ami Yves de le mettre sur une grille et de titiller un peu Raymond pour savoir un peu comment il concocte ces histoires un peu fantastiques.
Ah, Raymond, il est tombé dans le fantastique depuis déjà pas mal de temps.
Oh, depuis... Non, je suis quand même dans le clergé, on appelle ça une vocation tardive. J'ai commencé à écrire vers l'âge de 30-40 ans, et avant, je n'avais jamais écrit une seule ligne. Alors, je ne suis pas tombé dedans comme Obélix dedans.
Alors, tu as commencé par les nouvelles.
Oui.
Qui ont été publiés en France, hors de France, au Canada.
D'abord au Canada, alors ça a commencé au Canada, ça a continué en Belgique et enfin en France. Donc, je suis un circuit assez international, mais toujours en français quand même.
Et puis les romans. Et là, de roman en roman, comment dire, tu cherches toujours une voie nouvelle. Roman qui raconte tout simplement une histoire d'adolescent. Roman qui nous emmène dans la Chine ancienne, la Chine merveilleuse. Roman avec l'originalité d'être conçu sur un organigramme comme un programme informatique. Roman qui s'évade dans la science-fiction et le fantasy. D'ailleurs, tu nous expliqueras à l'occasion la différence entre la science-fiction, le fantasy, etc. Donc, tu aimes bien chercher un petit peu...
Et puis surtout, des choses nouvelles, je me souviens que tu avais fait un roman où on pouvait commencer par n'importe quel chapitre ça faisait une histoire différente.
Ouais, c'est le grand jeu.
C'était un organigramme comme un programme informatique.
Oui, c'était un bon grand jeu. Il est sorti l'an dernier, donc ce n'est pas ni du fantastique ni de la science-fiction. Et c'est un roman accès aléatoire, c'est-à-dire que je raconte l'histoire de trois personnages en cinq récits différents. Et à un certain moment, se produisent dans l'histoire des divergences, des événements impromptus qui viennent modifier le cours de l'histoire des trois personnages, et c'est le lecteur qui choisit quelle voie il doit prendre. Donc à la fin, on a lu cinq histoires différentes, des mêmes personnages, avec des événements mineurs qui viennent détourner l'histoire.
Mais dans le même livre.
Alors, je l'ai lu. Et alors on arrive à un chapitre, on nous dit ben, est-ce que vous pensez que l'héroïne devra mettre la robe rouge ou mettra le chapeau je dénature un petit peu. Donc sinon, si vous croyez qu'elle doit mettre la robe rouge, vous allez à la page 125. Si vous pensez qu'elle a raison de continuer, vous restez, vous suivez. Alors je l'ai lu en me fiant à mon instinct, et puis je l'ai relu également en changeant de réponse à chaque fois. Et on est sur des récits complètement différents. Hein, complètement différents. J'allais dire c'est fantastique. Non, c'est pas du fantastique, c'est du...
On est à la limite des littératures d'imaginaire, on est à la limite des mondes parallèles. Oui, on est dans des mondes parallèles, mais sans intervention ni fantastique, ni science fictionnesque. Quoi. Ça reste... je l'ai volontairement mis dans un environnement quotidien. C'est l'histoire de gens qui se rencontrent, qui se rencontrent pas, qui se marient, qui se marient pas, qui se séparent ou pas, mais à un certain moment interviennent dans leur existence des événements fortuits générés par des personnes extérieures que le fou ne connaissent même pas, qu'ils n'ont jamais vu, mais qui les poursuivront tout au long de leur vie. Et assez bizarrement, mais j'en suis aperçu après l'avoir écrit quelquefois, on n'a pas la même vision d'une des séquences selon l'ordre dans lequel on les lit. C'est-à-dire qu'on peut lire une séquence, par exemple, et à la fin, il y a une annotation qui paraît totalement anodine et sans intérêt. Et quand on a lu la séquence précédente, ça prend tout son relief. Donc il y a un jeu de miroir entre les différentes séquences, entre les différentes histoires parallèles.
Mais ça, tu t'en es rendu compte après
certains cas, je m'en suis rendu compte après, je ne l'avais pas fait exprès. Mais ça arrive souvent dans les romans. Mais c'est un roman, ce n'est pas cinq nouvelles séparées, c'est bien un roman. Quoi.
Ah oui, tout à
fait. Et en conservant la cohérence psychologique des personnages.
Alors moi je vous le recommande, hein, c'est un petit roman, il y a 180 pages. Mais c'est merveilleux quoi, de découvrir des situations qui changent en fonction de la façon dont on répond aux questions qui nous sont posées par l'auteur. Alors ensuite, enfin ou avant, tu nous avais amené en Chine. Alors aussi, c'est vrai que tu parles un peu de ce roman qui se passe en Chine, où tu as retrouvé l'écriture chinoise, la façon dont le romancier chinois écrit, en incluant le merveilleux, le fantastique, de façon très, très naturelle.
Alors ça, c'est L'île aux immortels, donc qui est paru en 2009. Et donc je l'ai écrit, je n'ai aucune acquaintance avec la Chine. Je pourrais expliquer si j'ai le temps pourquoi j'étais amené à écrire ça. C'est une histoire ancienne un peu qui a été... On a toute la soirée. Et donc L'île aux immortels, j'ai voulu l'écrire comme sont écrits les romans d'aventure chinois. Alors, je n'ai aucune acquaintance avec la Chine, je ne parle pas le chinois, je ne le lis pas non plus. La littérature chinoise, contrairement à la littérature occidentale, qui est très, enfin, surtout française, qui est très cartésienne, c'est-à-dire qu'on a des genres, on a la science-fiction par exemple, on a la littérature sentimentale, la littérature psychologique, etc., le fantastique, mais les Chinois, eux, mélangent tout. C'est-à-dire que c'est une littérature qui mélange les genres. Dans le même ouvrage, dans le même roman, on n'hésite pas à mélanger le réalisme, le surnaturel. Vous avez des fantômes qui interviennent en cours de route, etc. Donc j'ai voulu faire exactement la même chose, mélanger les genres et écrire une histoire d'aventure qui est écrite comme sont écrits les romans d'aventure chinois, c'est-à-dire en privilégiant l'action. Donc elle est composée de courts chapitres qui rebondissent l'un sur l'autre. Contrairement au travers qu'ont souvent les auteurs occidentaux quand ils écrivent des romans sur la Chine, c'est normal, ils se sentent obligés de rentabiliser leur documentation. Donc vous avez des pages et des pages pages sur la culture chinoise, la philosophie chinoise, pourquoi pas la cuisine chinoise. Bon, j'ai éliminé tout ça. Donc c'est un roman qui est assez musclé, qui est basé uniquement sur l'action. Et c'est un roman historique en même temps. Ça se passe à une époque précise de l'histoire de la Chine, une période troublée qui au 12e siècle, au début du 12e siècle, c'est la chute de la dynastie des Song du Nord. Et donc c'est l'histoire d'un personnage qui est amené à faire une mission un peu qui l'emporte contre une mission un peu incongrue, un peu extraordinaire, et qui traverse la Chine, une Chine troublée dans laquelle il rencontre des bandits, des faux moines et même des revenants.
Pourquoi, t'es un écrivain fantastique, pourquoi tu te lances dans un truc sur la Chine, qu'est-ce qui t'a amené à...
L'histoire de la Chine...
C'est un écart dans ta production
Non, enfin, sinon j'aurais fait beaucoup d'écarts, parce que j'ai fait des choses très, très, très différentes.
Tu fais que ça, des écarts.
Hein. Oui, j'ai fait que des écarts. Alors, j'ai commencé... Enfin, j'ai pas commencé... Du point de vue roman, j'ai commencé par celui-là. Bon, c'est une histoire assez curieuse. J'avais été amené... Quand j'étais en terminale, hein, donc au lycée... J'avais choisi, oui c'est vieux, le prof d'histoire nous avait demandé de faire un exposé, de faire des exposés, donc de donner une liste de trucs, etc. Et j'avais pris quelque chose sur la Chine. J'avais aucun intérêt particulier, mais enfin je me suis dit pourquoi pas. Donc j'avais sorti quelques bouquins et en les lisant j'avais entendu parler donc des romans traditionnels chinois, des romans des bords de l'eau. Le rêve dans le pavillon rouge, etc. Tous ces romans d'aventure chinois. Et puis à l'époque, c'était dans les années 60, je me disais que bon, de toute façon, je risquerais jamais de les lire. C'était pas traduit en français. J'avais fait mon exposé, puis j'avais eu mon soir par là-dessus. Et puis c'est tout. Quoi. J'avais plus jamais pensé à ça. Et dans les années 80, en lisant un article dans Le Monde, j'ai appris que bon, on avait traduit Les Bords de l'eau. Et ça a fait tilt tout de suite, je me suis dit, Les Bords de l'eau, ça me dit quelque chose. J'avais gardé quand même le souvenir de cette histoire. Les Bords de l'eau, c'est un roman qui se passe à la même époque que le mien, c'est-à-dire au XIIe siècle. Et c'est l'histoire de bandits qui se sont révoltés contre l'empereur et qui mènent une guérilla dans une région marécageuse. Et qui finissent, etc. Enfin, c'est un roman archétypique, c'est-à-dire qu'il a donné lieu... c'est un roman fleuve, hein, ça tient en deux tomes de la Pléiade. Et il a donné lieu par la suite à d'autres romans. C'est un roman source qui a donné lieu à des pièces de théâtre, à d'autres romans, à des divergences qui ont été écrites sur ce roman. Et de fil en aiguille, donc j'ai réussi à lire enfin l'histoire des bords de l'eau. Et puis ça a amené à d'autres lieux, ça se passait dans les années 80, où on commençait à traduire pas mal de choses chinoises en français. Donc j'ai lu Rêve dans le pavillon rouge, j'ai lu Qin Ping Mei, etc. Et en lisant la littérature, j'ai été amené à lire des bouquins sur l'histoire de la Chine, sur la civilisation chinoise, pour comprendre un peu ce qui se passait. Et au bout d'un moment, j'avais chez moi 6 mètres de littérature chinoise, à peu près, je parle de la longueur des rayons, quoi. Et au bout d'un moment, dans les années 80, le roman L'île aux immortels est né de ses lectures. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe d'habitude, je ne me suis pas documenté pour l'écrire, mais c'est la documentation qui, au bout du compte, a généré l'histoire, a généré les personnages. Alors, il y a d'autres références, il y a aussi le cinéma. Certaines séquences se rappellent à certains films de Mizoguchi, notamment à l'impératrice Yang Kufi ou bien au Comte de la Lune Vague. C'est un cinéaste chinois, mais un cinéaste japonais, mais dont les films que j'ai cités s'inspirent de l'histoire de la Chine. Donc tout ça, j'en ai fait un petit mélange et j'ai sorti donc L'île aux immortels.
Ah oui, c'est vraiment un roman qui est plein d'aventures, de fureurs, de bruit, de batailles, de trahison, d'amour. Enfin, les Américains diraient c'est du page turner. C'est vrai que à chaque fois qu'on a envie d'aller plus loin, parce que
ouais, c'est un road movie. Enfin, ça dépend comment on dit en français, mais avec des personnages récurrents, notamment bon, il y a toujours le personnage principal qui est Chiao Tsin, le lettré à qui est confié cette mission, et un personnage secondaire. Tsang le troisième, qui est un moine bandit, comme il en existait beaucoup à cette époque, dont les arguments théologiques se limitent à un gros bâton ferré, donc, et qui accompagne notre personnage jusqu'à la fin. Et comme toujours dans ces histoires d'aventure, le personnage est à la recherche de quelque chose, que lui a confié l'empereur, mais finalement, à la fin, finalement, au bout du compte, il se retrouve lui-même. Alors, on retrouve ce qu'il est réellement. Alors, je ne dis pas quoi, mais c'est...
dans ce roman, donc on approche le merveilleux, le fantastique. Déjà, avant de parler du dernier roman qui s'appelle La Bulle d'éternité, La Bulle d'éternité. La petite sonnette qu'on entend, c'est pour dire que le repas est prêt, peut-être.
Madame est servie.
Alors, La Bulle d'éternité, qui est un roman. Alors, est-ce que c'est du fantastique, de la science-fiction? Il serait bon d'abord que tu nous expliques un peu toutes les différences qu'il y a, parce que tu viens de 4 jours passés aux imaginaires d'Épinal. Et là, c'est la rencontre de la fine fleur.
Ça, c'est fantastique, là, vous imaginez.
Mais alors, quelle différence entre la SF, la fantastique, le merveilleux, etc.
Space opéra.
Space opéra, oui, ça c'est tout ça. Alors, c'est tout un. Bon, le fantastique, il y a la fantasy également. Alors, le festival d'Épinal, qui au départ était axé essentiellement sur la science-fiction, est devenu maintenant, la science-fiction est toujours présente, mais est devenu le grand festival de la fantasy. Parce que c'est un genre qui s'est développé.
Président, tu sais la différence qu'il y a entre
De toute façon, c'est un genre qui va bien vosgien, hein, vraiment. Ça colle pile poil, là, toi. On peut pas comprendre, si tu veux. C'est ça, c'est des mondes comme ça où tout est merveilleux, peut arriver tout à chaque seconde. C'est les Vosges.
Ah, voilà, c'est ça. Alors, je sais pas si Raymond partage le même point de vue.
Bon, alors, y a, je ne sais plus qui, c'est un écrivain qui a dit, ça figure d'ailleurs sur le site des Imaginales, pour différencier la fantasy de la science-fiction et du fantastique, dit si votre chat vous parle le matin en vous disant qu'il ne trouve pas ses coques croquettes à son goût, bon, si c'est de la fantasy, vous trouvez ça normal qu'un chat vous parle, bon, c'est le chat des contes, le chat botté, etc. Bon. S'il a des petites antennes sur la tête et que ça commence à grésiller, c'est qu'on doit être dans la science-fiction. Et s'il se transforme en monstre, ça vous saute dessus en ouvrant la mâchoire et en vous mordant, c'est qu'on doit être dans le fantastique, etc. En gros, c'est une façon de différencier les trois genres. C'est souvent des gens qui s'interpénètrent, et à l'intérieur de la science-fiction, vous avez des sous-ensembles, le space opéra, l'Uchronie, les voyages dans le temps, etc. Donc c'est tout un monde, c'est toute une littérature. Et bon, La Bulle d'éternité, donc c'est pas vraiment, c'est un recueil de nouvelles, donc là de la science-fiction, je n'ai pas pu réduire, mais enfin c'est axé essentiellement sur la science-fiction. Comme le précédent, Le Coup de Lune, que j'avais sorti en 2011.
Alors, recueil de nouvelles qui se tiennent un petit peu par la barbichette, ces nouvelles, hein, parce qu'il y a quand même des traits communs qui les relient. Et puis, également. On a toujours affaire au passé, à l'avenir, au futur, le retour vers le passé, la projection dans l'avenir, enfin tout ça se mélange un petit peu, non ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une... Bon, j'ai composé le deuxième recueil, mais sans nécessairement qu'il y ait une unité à travers ce recueil. Bon, il faut quand même une certaine diversité, sinon c'est monotone. Mais c'est vrai, quand je regarde la table des matières, il y a quand même un grand nombre de nouvelles qui sont axées sur le temps, c'est-à-dire sur le voyage dans le temps. Alors j'aime beaucoup ça parce que bon, je suis peut-être attiré un petit peu par le passé. J'ai une vocation d'historien à rentrer, donc j'aime bien les histoires aussi qui se déroulent à une période historique, à une certaine période historique que j'utilise. Je les ai utilisées à plusieurs reprises. Donc il y a cette dominante de voyage dans le temps. J'ai aussi écrit des uchronies aussi qui appartiennent un petit peu à ce genre. Quoi, on en trouve une d'ailleurs plutôt dans le recueil précédent, enfin dans Coup de Lune.
Alors, tu lis un extrait, qui est-ce qui peut lire un extrait? Tu veux lire un extrait? Alors moi j'aime bien le rat. Tu peux nous lire le rat? Non, c'est prévu.
C'est-à-dire que il faut lire un extrait. J'ai gardé quelques extraits.
T'avais prévu
mais des extraits courts, parce qu'autrement si.
Non, mais juste un petit peu le début du rat.
Le début du rat. Oui.
Ouais. Oh, pourquoi pas. Pour me faire plaisir.
Ah bah d'accord. Oui. Alors le rat. Oui, le rat. C'est pratiquement la première nouvelle qui a été publiée au Canada. Dans une revue qui s'appelle Imagine, qui a cessé d'exister, mais qui a duré longtemps. C'est une des principales revues de science-fiction du Canada, enfin du Québec. Et j'avais envoyé cette nouvelle un petit peu au hasard parce que j'avais une référence et ils me l'ont prise tout de suite, donc ça, c'est comme ça que ça a commencé. Et autre particularité de la nouvelle, c'est le résultat d'un rêve. Alors, je dors beaucoup, mais c'est en général très productif. Et donc, je ne perds pas mon temps en dormant.
Ah ben voilà. On demandera à ton épouse.
Oui. Non, mais je ne me réveille pas la nuit en criant. Non, Charlon, ça se passe bien. Je note le matin et c'est parti.
Il n'y a pas somnambule.
Non. Donc, c'est le résultat d'un rêve. Alors, comment transcrire des nouvelles venant d'un rêve, c'est pas évident parce qu'il faut quand même garder une certaine cohérence, parce que les rêves sont toujours comme incohérents. Il faut lui donner une forme littéraire, tout en gardant quand même cet aspect un petit peu onduleux, un petit peu nuageux du rêve, quoi. Mais celui-ci, le rat, c'était quand même quelque chose d'assez cohérent. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve embarqué par des militaires, arrêté et à qui on soumet une épreuve. Alors, je peux lire le début, mais je vais peut-être plutôt prendre le milieu, parce qu'autrement... Donc le jeune homme est amené, il trouve une affichette qui lui dit d'aller voir... on présente un film dans un endroit d'une salle de cinéma. Et puis ils sont en train de regarder le film, et brusquement, une lumière aveuglante jaillit du plafond. Musique et images disparurent en même temps que des hommes, faisant irruption dans la salle, séparer les couples à grand renfort de jurons et de coups de pied. « Debout là-dedans, bande de branleurs, finis la bazouille, tout le monde contre le mur. Les gonzesses à gauche, les types à droite. » Avant d'avoir pu reprendre ses esprits, Anne se retrouva debout, les jambes embarrassées par son pantalon qu'il n'a pas eu le temps de remonter. C'est alors qu'il vit les soldats. La tête couverte d'une longue casquette, une longue capote verte aux larges reflets rouges retombant sur de lourdes bottes qu'il avait senties dans ses reins avant d'avoir vu leur propriétaire. Le reste alla très vite. Cinq soldats s'étaient rangés à droite de l'écran, près de la petite porte dissimulée dans le mur par laquelle ils étaient entrés. Leur chef s'avança vers les garçons alignés contre le mur. « Toi et vous deux, en avant et au trot !» Il désigna la porte. Quelques secondes plus tard, elle s'était refermée derrière eux. Avec trois autres jeunes, Ed remontait maintenant un long couloir éclairé par des veilleuses. Dans leur dos, ils sentaient les bottes pesantes des soldats qui les talonnaient. Au bout d'une centaine de mètres, peut-être, une porte s'ouvrit. Ils entrèrent. Les soldats suivirent, le dernier ferma à clé, puis ils disparurent par une autre porte à gauche. Le chef s'adressa alors aux quatre garçons. « Vous allez rester là et attendre jusqu'à nouvel ordre. Ne bougez pas et surtout ne cherchez pas à filer, c'est compris ?» Puis il fit demi-tour et s'en alla par le même chemin que ses hommes. On entendit une clé tourner dans la serrure. Ça commence comme ça et on s'aperçoit que le personnage reste avec les quatre garçons qui ne bougent pas, qui sont terrorisés. Et la seule différence, c'est que lui cherche à partir. Et il cherche en fait à s'évader. Il réussit à partir, il réussit à quitter la salle, à voler une voiture, à quitter une ville assez bizarre, une ville qui n'est formée que de façades, une ville complètement déserte à l'extérieur de la caserne dont il vient de s'évader. Et il prend une route, il tombe dans une impasse. Plus rien, la route s'arrête dans la forêt. Il s'arrête un peu plus loin, il y a un parking. Des gens sont en train d'assister à un match de football. Il se débarrasse de l'uniforme qu'il avait pris avant de quitter la salle où il était retenu. Et il essaye de changer de voiture, il pense qu'il est repéré, il trouve une autre voiture, il y a un revolver à l'intérieur. Il repart, il repasse par la ville, toujours cette ville fantôme. Il reprend une route. Et il retombe de nouveau dans une impasse. On ne peut pas sortir de cette ville, c'est une impasse, il n'y a aucune entrée, aucune sortie. Et à ce moment-là, il est complètement désespéré, il sort le revolver et il vide le chargeur sur la voiture. Et il n'y a aucun impact, le revolver était chargé à bord. Et à ce moment-là, il revoit le militaire qui l'avait fait prisonnier, qui sort de la forêt, qui s'avance vers lui avec un grand sourire et qui le félicite. Il vient simplement de subir une épreuve d'enrôlement dans l'armée.
Voilà. Ah, ça s'arrive comme ça.
Mais c'est un rêve que tu as fait, les jeunes qui vont nulle part.
Oui, bien sûr.
Et ça, c'est marrant parce que, je ne sais pas, enfin, d'assistante, mais c'est des rêves que je pense que tout le monde a fait. les portes qui donnent sur rien et les routes qui vont. Ça m'a rappelé ça.
Les couloirs, mais au fond, il y a un mur de briques.
Et
des portes tout le long.
Tous, on a fait ce genre de rêve d'impasse.
Il faut les écrire.
On n'a pas trop de talent.
Ce qui m'a amusé, parce que c'est amusant quand même.
Oui, bien sûr.
C'est les quatre dernières lignes. Au cours des épreuves de sélection, le jeune N a fait preuve d'une endurance, d'un esprit d'initiative et d'un sang-froid hors du commun. En raison de ses brillants résultats, il a été immédiatement incorporé dans les forces spéciales d'intervention. Il a été dirigé sur le camp de C, où il poursuivra son entraînement. Alors, tu nous emmènes dans des chemins, des trucs, des vraiment, on a la frousse.
Ah ouais, ça fout les jetons.
Et puis à la fin, bon, c'était tout simplement un gars qui était en train de faire un parcours de Boy Scout.
De Boy Scout peut-être pas, mais c'est les qualités qu'il a démontrées par rapport à ses autres camarades en cherchant à s'évader, se sont retournés contre lui, parce qu'on a considéré qu'il avait de l'esprit d'initiative, qu'il était qu'il était efficace, etc. Ce qui fait qu'il a été sélectionné pour faire partie des forces spéciales.
Certaines choses dont tu voulais nous parler justement à propos des bulles d'éternité.
Oui, alors le.
Avant de passer aux questions.
Les questions, oui.
De nos amis.
Bon, je lirai bien des extraits du temps de chien.
Ah, oui.
Vas-y. Oh, le temps de chien. Le temps de chien. Alors, c'est un voyage voyant dans le temps. Hein. Alors, le temps de chien, ça a été publié. Ne vérifie pas. Ça a été publié dans Fiction. Fiction, c'était la grande revue de référence de science-fiction des années 60, 70, 80. Elle a disparu dans les années 80. Et j'ai réussi, donc, dans les dernières années, à faire publier une nouvelle dans cette revue. Alors, Temps de chien, C'est l'histoire d'un voyage dans le temps, mais là c'est scientifique. Alors, le voyage dans le temps, en général, quand on pense au voyage dans le temps, vous avez toujours l'histoire du type qui va dans le passé, qui rencontre sa grand-mère dont il tombe amoureux. Résultat, il tue son grand-père et bon, il fait une grosse bêtise parce que comme il a tué son grand-père, il peut plus exister parce que son père. Alors, bon, je ne me suis pas lancé dans ce genre de choses. D'ailleurs, il y a trop de gens qui l'ont fait avant moi. Ça commence à être un petit peu frelaté. Là, le temps de chien, c'est quelque chose de scientifique. C'est des gens qui scientifiquement essayent d'envoyer quelque chose dans le futur. Le temps de chien. L'avenir appartient toujours aux brumes. Ce titre apparu un beau matin dans la presse annonçait au monde le début d'une série d'expériences plus étonnantes les unes que les autres. La veille, scientifiques et journalistes groupés autour du professeur Larmoise se doutaient-ils des conséquences allait avoir le geste de ce dernier lorsqu'il mit en marche son appareil et que le paquet de gauloises sur lequel se braquaient les caméras disparut brusquement. Ce n'est que deux longues heures plus tard que l'inventaire de la machine à explorer le futur activa le processus de retour. Et lorsque le paquet réapparut au centre de la petite cage de verre, des millions de téléspectateurs jusque-là incrédules purent constater qu'il était ouvert, qu'il manquait deux cigarettes. Alors ensuite, on passe à la phase suivante, à l'expérimentation animale. Donc on cherche un animal pour envoyer dans le futur. Là, il y a des, je passe sur les détails, il y a des pressions, il y a une association à lobby très important qui est la Fédération française des clubs canins qui insiste pour que ce soit un chien qui soit envoyé dans le futur. Donc, on sélectionne un chien. À l'issue d'un concours télévisé, il reçut le nom de Laïka en souvenir de sa lointaine compagne soviétique qui jadis fut le premier animal à voyager dans l'espace. C'est à cette époque qu'un certain nombre de scientifiques vinrent renforcer l'équipe du professeur Larmoise. Parmi eux, René Pujol, qui ne tarda pas à s'opposer à son chef et joua sans doute un rôle capital dans le dénouement tragique de cette histoire. Mais n'anticipons pas, car l'heure était encore à l'optimisme et à l'unanimité. Pour la première fois, un être vivant, une chienne, allait voyager dans le futur et chacun espérait en revenir. Aux yeux des téléspectateurs du monde entier, Laïka disparut. Et puis ce fut l'attente, 36 heures pendant lesquelles le petit caniche allait s'ébattre dans un monde inconnu. Mais quelle angoisse pour le retour! Pourtant, tout se passa comme prévu. Et les mêmes purent voir l'animal réapparaître dans l'habitacle de verre, implanté dans la chambre stérile du laboratoire, où Laïka resta plusieurs jours sous surveillance, avant d'être rendu à la liberté. Accompagné du ministre de la Recherche scientifique, le président de la Fédération française des clubs canins vint en personne féliciter l'équipe du professeur Larmoise. Les dons affluèrent au laboratoire, et l'on parlait déjà d'expérience sur l'homme, lorsque la nouvelle révélée par René Pujol éclata comme une bombe. Laïka était enceinte. Les observateurs accourus aussitôt ne purent que constater le désastre. Le ventre de la chienne gonflait sous le poids d'une portée de chiot. Cet événement anodin en apparence jetait pourtant une ombre sur les travaux de l'Institut du transfert temporal, car le calendrier et les analyses effectuées sur l'animal avant l'expérience prouvaient que l'aventure qui avait mis Laïka dans cet état datait de son séjour dans le futur. Si certains scientifiques déplorèrent le manque de pluridisciplinarité des équipes de recherche, l'opinion de l'homme de la rue se résume plus prosaïquement à cette remarque. Ça se prétend savoir, ils n'avaient même pas foutu de voir qu'une chienne en chaleur. Alors, c'est le début des ennuis, parce que des ces petits chiots conçus dans le futur, va sortir un chien qui s'appelle Alpha et qui aura évidemment qui aura pris un certain nombre de choses. Et qui provoquent une catastrophe dans l'environnement. Bon. D'où est née cette histoire? Là, c'est pas un rêve. Hein. Donc, j'ai trouvé. J'espère que certains d'entre vous n'ont pas de chien. Le fait de voir un homme ou une femme dans la rue traîné par un chien au bout d'une laisse m'a pas toujours un peu ridicule, un peu dérisoire. Et quand on voit ça, on se demande quelle est l'espèce qui a apprivoisé l'autre. Et c'est un peu de ce télescopage qu'est née l'histoire du temps de chien.
Il participe à l'évolution, c'est pas celui qui sera l'ultime étape de l'évolution.
Mais l'ASF ne signifie pas le manque d'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Dans beaucoup de tes nouvelles, il y a beaucoup d'humour.
Il y en a pas mal, oui, pas partout, mais j'essaie de le privilégier, peut-être pas dans celui-là, mais dans le précédent, dans le coup de lune. Le temps chien, bon, évidemment, c'est humoristique, mais une nouvelle comme Ténèbres est plutôt dure, plutôt aussi, je dis pas sinistre, mais enfin plutôt dure, quoi. Le rat, bon, il y a beaucoup d'humour aussi, quand même, bien sûr.
Alors, une autre nouvelle que tu voulais nous, dont tu voulais nous parler, ou que tu voulais nous présenter?
Il y en a plusieurs. Il y a erreur d'aiguillage, évidemment. Bon, là aussi, erreur d'aiguillage. Alors, c'est un voyage dans le temps, mais c'est un voyage dans le passé. Alors, erreur d'aiguillage, ça fait partie des classiques également du voyage dans le temps. Je pars de l'idée que une machine à voyager dans le temps a été inventée et ça a été pris en charge par des tour opérateurs qui font des voyages dans le passé, mais des voyages, c'est présidé par une société de polémologie, donc c'est des gens qui vont assister à des batailles du passé, à la bataille de Gettysburg, à la bataille de Waterloo, etc. Donc ils font ça en train, dans des wagons confortables, et ils peuvent assister à la bataille, ils peuvent même interviewer éventuellement des combattants. Donc nos personnages sont partis en 1914 pour la bataille de Gomez Palacio, qui est une bataille livrée par Pancho Villa aux troupes gouvernementales. Donc ils sont embarqués, et puis, bon, évidemment, ça se passe mal, sinon ça n'aura aucun intérêt. En fait, de Pullman, ils se retrouvent dans un wagon à bestiaux. Alors, le train s'était remis en marche lentement. À l'intérieur du wagon, les voyageurs transis, entassés dans le coin le plus abrité, ramenaient sur leurs jambes la paille qui jonchait le plancher. Le président de la société de polémologie avait pris la place d'Hubert de Bois d'Œuvre dans la lucarne. Soudain, il annonça : Je vois des lumières, nous allons sans doute entrer dans une gare. J'espère que le buffet est ouvert, un café nous ferait le plus grand bien, lança un homme du groupe. Mais cette plaisanterie ne fit rire personne. On revient au centre de contrôle qui organise le voyage. Le centre de contrôle : Chef, je dois vous signaler un incident majeur. Un incident majeur ? Oui, c'est comme qui dirait une erreur d'aiguillage. Le train s'arrêta. Le président, debout sur la pointe des pieds, distingua un quai, des lampadaires et dans le lointain quelques baraquements. Puis on entendit des bruits de bottes et des aboiements. Hubert de Bois d'Œuvre se rapprocha pour tendre l'oreille. Dehors, des voix brutales lançaient des ordres. Une erreur d'aiguillage. Qu'est-ce que vous me racontez là? Listez-moi immédiatement tous les paramètres entrés depuis le départ. Il faut savoir où est passé ce fichu train. Malgré la climatisation, la sueur perlait au front du chef de gare qui sentait une boule bloquer sa respiration. Autour de lui, le monde s'agitait. Le contrôleur, de plus en plus mal à l'aise, avait enlevé sa cravate et fixé désespérément l'écran. Dehors, les portes des wagons s'ouvraient en grinçant. Martial, dans le groupe agglutiné derrière le président, toujours rivé à sa lucarne, pouvait percevoir les paroles. « Taisez-vous, ce doit être des soldats de la villa, monsieur Bois d'Œuvre. Demandez-leur si nous sommes en vue de Gomez Palacio. » Je comprends rien à ce qu'ils disent. Comment ? Mais vous connaissez l'espagnol ? Oui, mais ils ne parlent pas cette langue. Chef, ça remarche. Nous allons avoir les coordonnées spatiales. Le mur du fond tout entier, recouvert d'un immense planisphère, fut traversé d'un grand trait rouge qui descendit lentement, croisé bientôt par une flèche jaune horizontale. Des chiffres apparurent sur un cadran. 50 degrés, 2 minutes, 12 secondes de latitude nord. 9 degrés, 10 minutes, 33 secondes de longitude est. Le chef de gare, incrédule, s'approcha du planisphère en hurlant. Mais c'est en Pologne ! Martial, repoussant le président, mit son visage à la fenêtre. Des hommes, des soldats tenant des chiens en laisse s'approchèrent de la porte. Ah, ça y est, je comprends ce qu'ils disent. Mais ils parlent en allemand. Mais regardez le planisphère, bon Dieu, au lieu de rester rivé aux écrans. Vous voyez, vous l'envoyez envoyer votre train, vous le voyez ? C'est bien ce que je disais, répliqua le contrôleur. Une erreur d'aiguillage. Le chef le fusilla du regard et bondit jusqu'au pupitre central. Et les coordonnées temporelles, ça vient ? On entendit le loquet retomber. La porte roula sur son rail. Une giboulée de neige pénétra dans le wagon. Sur le quai, des hommes en uniforme noir, maintenant deux chiens en laisse. À coup de matraque, d'autres voyageurs étaient éjectés du wagon voisin. Martial demandait-leur pourquoi ils ne parlent pas l'espagnol. L'imprimante crachota. Le chef de gare arracha le papier et sourit sur le contrôleur. « Sinistre abruti, regardez ce que vous avez entré. Mais lisez donc 1941 au lieu de 1914. » L'homme en uniforme noir ouvrit les yeux comme des soucoupes, puis beugla en direction des voyageurs. « Qu'est-ce qu'il raconte, Martial ?» Il me donne 10 secondes pour descendre. Répondez-lui qu'il n'en est pas question. C'est strictement interdit par le règlement de la compagnie. Engagez la procédure de retour accéléré. « Mais chef, c'est extrêmement dangereux pour les passagers. Ils risquent pas plus que là où vous les avez envoyés. Je veux revoir ce train dans les 30 secondes. » L'homme en uniforme noir regarda Martial. un aboiement jaillit de sa bouche en même temps qu'il lâchait les deux chiens. Donc pour l'erreur des liages, bon, il y a du humour malgré tout.
Il faut pas avoir confiance au petit personnel.
On explique dans le détail qu'on a confié le pilotage à un stagiaire sous-payé, donc il y a des conséquences aussi.
Oui, je voudrais savoir simplement si vous avez été influencé par de grands auteurs de science-fiction comme Asimov ou d'autres.
Non, parce que... Bon, je suis venu... Bon, j'ai encore raconté une anecdote que je raconte chaque fois, mais ça fait rien. Je suis venu un peu à la science-fiction par hasard. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai commencé à écrire très tard. J'ai écrit des nouvelles un petit peu au jugé, sans absolument me préoccuper de savoir si c'est de la science-fiction, du fantastique ou autre chose. Et j'ai... C'est un peu quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est la personne qui est actuellement la directrice littéraire du Festival des Imaginaires à l'Épinal, Stéphanie Nicot, que je suis allé voir. Alors, l'anecdote, là, je l'ai racontée aussi. Je l'ai connue par le biais des Canadiens. C'est-à-dire que j'avais envoyé cette nouvelle, justement, le rat. Je l'avais envoyé au Canada, imagine. Et en envoyant le code postal, 54 et des poussières, et Jean-Marc Bouanvic à l'époque a dit, tiens, il y a un type qui a dit à Stéphanie Nicot, tiens, il y a quelqu'un qui écrit de la science-fiction dans tes environs, ça à peu près le maître code postal, il ne doit pas être loin de chez toi. Effectivement, j'étais un jet de pierre de chez elle, donc je suis allé les trouver, je lui ai montré mes nouvelles, elle les a lues, m'a fait trois tas. Le premier temps, il m'a dit, ça c'est de la science-fiction, ça c'est du fantastique, ça c'est autre chose. C'est comme ça que j'ai écrit, que j'écrivais de la science-fiction et du fantastique. Et j'ai continué comme ça. Alors, inévitablement, bon, j'ai été amené à lire des ouvrages de science-fiction. Bon. Mais je ne lis pas que ça. Je suis très attiré aussi par la littérature générale. D'ailleurs, j'ai utilisé Stendhal à plusieurs reprises dans mes nouvelles pour les intégrer dans une histoire. Quoi. Donc, je ne suis pas un monomaniaque de la science-fiction. Mais par contre, j'ai découvert, en fréquentant les milieux de la science-fiction, j'ai découvert des gens qui étaient des lecteurs de science-fiction, c'est-à-dire des gens qui ne lisaient que ça et qui méprisaient souverainement le reste. Et bon, c'est un milieu assez particulier de gens passionnés, mais de gens qui sont des littéraires. Hein. La science-fiction, c'est pas une littérature d'un alphabet, c'est une littérature à part entière et qui a ses exigences.
quel format tu te sens plus à l'aise, le roman ou la nouvelle? Et pourquoi?
Je me sens... Bon, j'ai écrit, si je fais le compte, jusqu'à présent, 3 romans, plus un 4e en préparation, et le reste, c'est des nouvelles. Bon, je me sens plus à l'aise dans la nouvelle. Alors, pas parce que j'ai commencé par là, parce que c'était peut-être une époque aussi où je n'avais pas le temps de me lancer dans un genre plus long, le roman. Mais j'aime bien la forme courte, j'aime bien la chute, j'aime bien la précision de la nouvelle. Et les romans que j'ai écrits sont comme des romans relativement courts, des romans qui font à peu près 200 pages, ou 300 à 400 000 signes, pas plus. Et je ne me sens pas, je n'ai pas l'idée de m'embarquer dans un roman fleuve, avec des digressions, des grandes descriptions, etc. Donc je préfère, même si j'aime bien le roman, je préfère quand même la nouvelle.
Tu es un sprinter et pas un coureur de fond.
Oui, c'est ça, oui, effectivement, oui. Ça viendra peut-être un jour, mais je ne me sens pas, dans les projets que j'ai, je ne me sens pas me lancer dans un roman fleuve, surtout pas dans la science-fiction, quoi.
Oui, la nouvelle obéit à des règles quand même très, très précises. Il ne suffit pas d'écrire un texte court. Comme tu dis, il y a une chute, enfin, il y a une construction dans une nouvelle.
Oui, bien sûr. Bon, la nouvelle obéit à des exigences. S'il y a le moindre... Bon, il peut y avoir dans une nouvelle un développement psychologique, par exemple, vu sa taille. Donc il faut que les personnages soient en principe très peu nombreux, soient bien typés. Et aussi, c'est un travail de précision parce que chaque mot compte. Bon, si un mot est mal placé ou placé au mauvais endroit, ça risque de casser toute la nouvelle. Alors que dans un roman, bon, un roman de 800 pages, si vous avez une 50aine de pages qui sont un peu faiblardes, au bout du compte, quand vous avez lu le bouquin, à la fin, vous en apercevez pas, ça passe. Alors que la moindre faiblesse dans la nouvelle vous casse complètement vos effets, quoi. Et surtout en science-fiction, parce que c'est basé quand même sur la surprise. On cherche à surprendre le lecteur, on cherche à l'égarer aussi, beaucoup, à l'égarer sur des fautes pistes, un petit peu comme dans un roman policier, d'une certaine manière. Donc c'est un travail de précision, quoi.
Peut-être que la langue anglaise se prête plus à ça que le français, non?
Oui, alors je ne sais pas si c'est la langue qui joue dans ce cas-là, mais c'est vrai que la nouvelle est un genre relativement marginal en France. Bon, je sais que j'avais aussi la naïveté quelquefois d'envoyer mes recueils de nouvelles au début à des grands éditeurs. Bon, qui m'ont répondu en substance, pour éditer un recueil de nouvelles, il faut au moins avoir déjà édité au moins 50 romans chez eux, quoi. Autrement dit, on ne prend pas de risque. C'est un genre qu'on ne considère pas. Et le genre roi, c'est le roman, quoi. Alors, c'est assez contestable. C'est vrai que on pourrait penser que les gens, étant de plus en plus stressés, étant pressés, une nouvelle, ça se lit entre 3 ou 4 stations de métro. Et on pourrait penser que les gens lisent plus de nouvelles. Ben non, apparemment, c'est le roman quand même qui garde la préférence. Donc... D'où la difficulté à faire et éditer un recueil de nouvelles, quoi.
Est-ce que tu es amateur de séries télévisées ou de films de science-fiction?
Non, je lis assez peu de... Enfin, je n'ai pas de téléviseur. Je lis pour les impôts, d'ailleurs, parce que j'ai un contrôle de temps en temps. On vient voir si j'ai... Non, j'ai pas de téléviseur. Quand j'étais jeune, je considérais que c'était un truc pour les vieux, la télévision, et puis finalement, j'en suis resté là. Donc je lis pas, je ne regarde pas de séries télévisées. Et les sites de science-fiction, je suis pas un fanatique de la science-fiction, y compris au cinéma.
Les Star Trek et compagnie.
Non, même pas, ça m'emballe pas tellement. Par contre, dans le domaine de la fantasy, j'ai beaucoup aimé Tolkien. Mais là, on est dans la fantasy, quoi. C'est encore autre chose.
Et bien voilà, merci Raymond Hiss de cette belle soirée que nous avons passée à Laissez-nous cuire, ce restaurant des Trois Maisons, rue Sébastien Caler. Et nous nous retrouverons la saison prochaine grâce aux bons soins de l'ADIL et à l'amitié que nous nous portons mutuellement entre l'ADIL et Radio Carême Nancy, RCN. Nous nous retrouverons encore de temps à autre dans cette cave sympathique pour recevoir et écouter nos amis écrivains Laurent. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne vacances et sachez que tout au long du mois d'août, vous retrouverez Marc Page parce qu'il y a quelque temps, nous sommes allés rencontrer les écrivains qui exposaient à Metz le salon des écrivains lorrains dans ce magnifique bâtiment des Récollets. Et bien voilà, ils sont venus se confier à notre micro. Et nous avons de quoi, nous avons enregistré de quoi remplir, si je puis dire, nos émissions du mois d'août. Et vous viendrez donc, et vous pourrez écouter nos amis écrivains lorrains qui ont plein de choses à nous dire dans tous les domaines de la littérature. Allez, bonne semaine, au revoir.